est là pour vous adoucir votre soirée.
Il est 23h.
Parlons vrai.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. A priori, l'homme est un animal pensant, c'est du moins ce qui le différencie de l'animal. Donc, il serait capable de raisonner et de décider en son âme et conscience de sa vie. Alors, a priori, quand on observe les humains, on est bien obligé de se rendre compte qu'il manque parfois complètement de bon sens et qu'il leur arrive souvent de prendre des décisions qui sont franchement un peu stupides, et tout particulièrement en ce qui concerne les désirs et leurs amours. Bref, l'humain serait-il si con? C'est en tout cas le constat que semble faire mon invité Yves-Alexandre Talman, et dans un instant, avec son intelligence assez spéciale, il nous expliquera pourquoi nous sommes capables de prendre les mauvaises décisions malgré notre intelligence. Et là, je peux vous l'affirmer, c'est parfois des personnes ayant fait de très hautes études qui agissent peut-être encore plus stupidement. En tout cas, vous avez forcément pris, vous aussi, de temps en temps, des mauvaises décisions. Et si vous avez envie de mieux comprendre pourquoi vous avez pris ces mauvaises décisions, afin peut-être de ne pas réitérer vos erreurs, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre pour témoigner. Pour ça, vous composez le 0826 300 300. Yves-Alexandre Talman, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, franchement, le titre de ce livre m'a vraiment interpellée. Il est sorti aux éditions Marbaga. Qu'est-ce qu'on peut être con? Alors, j'ai été regarder un petit peu de quoi il parlait, et il parle en effet de nos mauvaises décisions. Et alors, sincèrement, je sais pas du tout ce que vous allez nous dire, et donc je suis la première vraiment en attente de vos réponses. Pourquoi on est parfois si con? Dites-nous.
Bon, le mot con, bien sûr, il est un petit peu surfait. Le livre parle surtout d'intelligence, mais d'une intelligence un petit peu particulière. On aurait tendance à associer d'un côté l'intelligence avec son opposé, c'est-à-dire la bêtise ou la stupidité ou la connerie, suivant comment on prend le vocable. Dans le livre, je montre que c'est pas tout à fait le cas, et je prétends que nos décisions, allez, on va prendre un terme plus technique, suboptimales, c'est-à-dire celles qui vont pas se traduire par une réussite ou par l'atteinte d'un objectif, font aussi partie de notre intelligence, entre guillemets. C'est-à-dire que notre cerveau est aussi programmé pour prendre des décisions qui sont pas aussi rationnelles qu'on le croit. On parle souvent de biais cognitif en psychologie. Alors, oui. C'est aussi ce qui a trait dans ce thème de la connerie, hein, même si le terme il est un petit peu léger.
Ce qui veut dire que finalement on se laisse entraîner par des envies, des désirs, sans prendre le temps de réfléchir, c'est ça aussi?
Oui, mais parfois on réfléchit, mais on réfléchit un petit peu de travers, de façon biaisée. Je prendrais comme exemple l'optimisme dans son excès. On parle du reste couramment, hein, d'excès d'optimisme. C'est-à-dire qu'on croit que certaines choses ne vont pas nous arriver à nous, disons parce que c'est nous. C'est typique des mauvaises décisions, hein. Moi je ne divorcerai pas, moi je n'aurai pas de MST, moi je n'aurai pas de problème si je conduis en état d'ébriété. Le raisonnement il est bien là, mais il est biaisé.
Oui, oui. On le voit d'ailleurs sur des personnes, par exemple, qui font de la moto ou qui font un sport à haut risque. Tant qu'on n'a pas eu vraiment un accident dans lequel on a cru qu'on allait pouvoir peut-être y passer, on continue à croire que ça nous arrivera pas. C'est ça dont vous parlez, cet optimisme, cette sensation finalement d'être immortel qu'on a quand on est adolescent d'ailleurs.
Exactement ça. Moi-même, je suis motard et il y a peu, j'allais renouveler mon équipement, est arrivé un jeune homme avec deux béquilles et puis, on va le dire, sacrément moché. Et puis, il venait à ce moment-là aussi pour essayer de trouver comment se protéger, parce qu'avant, il était au-dessus de ceci. Mais je ne veux pas lui jeter la pierre parce qu'on est tous comme
oui,
ça.
Oui, oui.
Apparemment, notre cerveau a été programmé au fil des générations, dans l'évolution, aussi hein, pour ne pas, être trop dans la peur hein, de tous les dangers. Donc, c'est un équilibre à avoir entre optimisme et puis crainte. Mais parfois, l'excès d'optimisme nous amène à prendre des décisions qu'on va amèrement regretter.
Oui, oui, et d'ailleurs, je ne sais plus qui avait pris cet exemple qui m'avait beaucoup amusé, l'exemple du hérisson hein, qui se sent assez invincible puisque de toute façon, il se met en boule et puis il est entouré d'épines, donc il risque rien. Aucun prédateur ne peut l'attraper. Et donc, il traverse la route en toute confiance et il se fait écraser parce qu'il y a une voiture qui passe. Quoi. C'est d'être quand même réaliste sur les risques qu'on prend. Après, on les prend ou on ne les prend pas, mais peut-être faire... Enfin, alors, cela dit, moi, je jette la pierre à personne parce qu'en tant que cavalière, j'ai aussi pris beaucoup de risques, donc et c'est bien aussi parce que d'un autre côté, on voit aussi des personnes terriblement anxieuses et qui finalement n'osent rien.
Oui, c'est une question d'équilibre. Je vous donnerai encore un exemple puisqu'on va parler de vie amoureuse. Moi-même, quand j'ai pris la décision de me marier, ben j'en étais pas à mon coup d'essai. Hein. J'avais eu déjà quelques relations, quelques ruptures. J'ai pris le parti de séparer en fait les achats. Chaque meuble, chaque assiette, etc. Enfin, pas chaque, mais les choses importantes.
J'espère.
C'était soit elle, soit moi. Je me souviens que mes amis à l'époque, ils m'ont regardé en disant « Mais quand même, tu pars des fétiches, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. » Mais je peux vous assurer que ceux qui ont connu les séparations et les divorces, ça leur est revenu en tête. Alors, c'est comme prendre une assurance. Je ne prends pas une assurance parce que je suis pessimiste. Mais le jour où j'ai un accident, je suis content d'avoir une assurance. C'est un petit peu ça le calcul à faire.
Oui, oui, absolument. Et alors justement, dans la vie amoureuse, si on est trop pessimiste, ben, on ne s'engage jamais. Si on est trop optimiste, on s'engage avec le premier venu, on lâche tout et on se retrouve assez vite dans une situation qui ne nous convient plus du tout.
C'est ça. Moi, je dois dire que je suis un féru de statistiques. Vous savez, dans le développement personnel, on nous fait croire que nous sommes des êtres uniques, hein, exceptionnels, spéciaux. Moi, je crois plutôt qu'on a un fond commun, hein, ce qui nous rend commun, mais dans le bon sens du terme. C'est aussi ce sur quoi se base la psychologie, hein, ce qui nous relie. Donc, je m'intéresse aux statistiques et puis c'est des informations qui m'aident à prendre des décisions, que ce soit pour ma santé, que ce soit pour mon couple, que ce soit pour d'autres types de choix à faire. Mais il se trouve que si on est unique, on peut prendre des libertés par rapport à ceci. Par contre, si on s'inspire des autres, ben peut-être qu'on prend des décisions un peu plus sages et donc qu'on fait moins de conneries, entre guillemets.
Eh oui, aujourd'hui, quand on sait qu'un divorce sur deux, enfin qu'un couple sur deux se divorce, bon, il vaut mieux être un peu prudent. Et alors, est-ce que nos croyances, justement, peuvent aussi avoir des influences assez connes sur nos décisions, Yves-Alexandre Talman?
Ah oui, bien sûr. Maintenant, on peut prendre des croyances qui amènent de la souffrance. J'imagine hein, une personne qui, suite à une première expérience amoureuse, commence à nourrir de la méfiance envers toutes les personnes, tous les partenaires possibles, hein, tous les hommes, etc., ou toutes les femmes. Là, on a affaire à une croyance, bien évidemment. Mais c'est une croyance qui va avoir des conséquences et souvent hein, qui amène du malheur. Donc, on a souvent ce qu'on appelle des schémas mentaux, alors des croyances, ça va bien, hein, qui influencent sans forcément qu'on s'en rende compte, hein, sans que ce soit forcément conscientisé, nos décisions et nos comportements. C'est du reste pour ça qu'on commet souvent les mêmes erreurs. Hein. On se dit, tiens, avec un cerveau comme le nôtre, on devrait apprendre de nos erreurs. Mais quand on regarde autour de nous, et nous-mêmes aussi bien sûr, on se rend compte que parfois on commet les mêmes erreurs une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, comme si la leçon n'était pas apprise.
Oui, oui. Alors, je vais prendre un tout petit exemple. Hier, je déjeunais avec une amie et elle me racontait une relation qu'elle a avec un homme. Et entre ce qu'elle me disait, qu'elle croyait que comment la relation allait évoluer, puisque j'entendais, il y avait vraiment un grand écart. Et je me suis permise donc de lui dire, écoute, il me semble que tu es déjà en train d'envisager une relation bien plus sérieuse que ce que tu me racontes. Est-ce que le fait justement de pouvoir parler à quelqu'un qui va savoir nous écouter, évidemment, c'est pas une façon aussi d'être un peu plus clair avec soi-même, parce qu'au fond, on se raconte sans arrêt des histoires. Vous êtes d'accord avec ça, Yves-Alexandre Talman?
Tout à fait. Notre cerveau, c'est un magnifique organe, pour ne pas dire machine, à raconter des histoires, à donner du sens, parfois même où il n'y en a pas, hein, mais on va absolument en voir comme un peu les figures qu'on peut voir dans les nuages. Donc, le fait de pouvoir s'en ouvrir à quelqu'un d'autre qui va nous donner un feedback objectif, parfois même pas en nous donnant son avis, mais en reformulant.
Juste en écoutant, oui.
Et en le disant avec sa voix à lui, « Ah, tu es en train de me dire que cette relation n'est que passagère. » Et la personne s'entend, en fait, penser, mais avec votre voix. On appelle ça l'objectivation. Et puis, effectivement, ça permet aussi d'avoir un peu de recul, de distance par rapport à notre monologue intérieur.
Eh bien, c'est ce qu'on va faire durant ces deux heures, Yves-Alexandre Talman, avec vous, hein, qui nous écoutez, que vous avez peut-être une décision que vous hésitez à prendre ou que vous avez envie de prendre. Eh bien, c'est le moment peut-être de venir la formuler et on va vous écouter avec nos quatre oreilles. On fait une petite pause, 0826-300-300, vous pouvez nous rejoindre. C'est Élise qu'on retrouve dans un instant.
Sud Radio Toulouse, 101.8 et en DAB+.
Sud Radio.
This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey. Come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a fake, come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh.
Oops, Spurs.
To the flow now, ooh.
Cannot dance with you, baby. Pour that sugar and liquor on me too.
Spurs, boots,
solagenic, photogenic, shoot.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
C'est Yves Alexandre Telman aujourd'hui, psychologue spécialiste en développement personnel, qui va vous aider à prendre les bonnes décisions. Et on commence avec Élise. Bonjour Élise.
Bonjour Brigitte et bonjour à Yves Alexandre.
Alors, vous avez pris, semble-t-il, une mauvaise décision en vous mariant avec, avec un homme, c'est ça ?
Oui, oui, oui. Alors, oui, en fait, je me suis mariée par dépit, par défaut, par ras-le-bol, justement, de ne jamais de ne pas avoir de relation avec les personnes avec qui j'aurais aimé avoir une relation. Donc, j'étais beaucoup plus jeune. Je me suis mariée, j'avais 25 ans. Alors, aujourd'hui, ça paraît étrange, mais à l'époque, c'était un peu plus la norme, en fait.
Oui,
on était déjà un peu hors norme. Voilà. Et voilà, j'avais déjà une expérience de vie qui me faisait dire que, ben voilà, on ne voulait pas forcément de moi sur le plan amoureux et que les personnes vers lesquelles j'étais attirée, j'ai eu des bons moments, mais ça n'allait pas plus loin. C'était pas des constructions qui pouvaient se faire. Et alors, par dépit, vraiment, par désarroi, j'ai accepté de me marier avec quelqu'un. Bon. Quelqu'un qui voulait de moi. Mais forte de cette expérience et de cette très mauvaise expérience, depuis que je suis séparée, je revis la même chose que quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que je fais le constat qu'on ne veut toujours pas forcément de moi, en tout cas les personnes qui m'intéressent, et je suis très courtisée par ailleurs, hein, très très sollicitée, très demandée, mais voilà, je veux absolument ressentir moi-même des vibrations et ne plus jamais me mettre avec quelqu'un par peur de continuer dans la solitude, pour des mauvaises raisons en fait.
Voilà. Mais il me semble, si je vous écoute bien, Élise, c'est qu'en fait, il y a des hommes qui vous plaisent, mais ceux-là ne vous regardent pas, ou en tout cas ne s'intéressent pas suffisamment à vous. C'est ça
Voilà, oui, oui, tout à fait. C'est ça. Alors, c'est étrange, hein, comme sentiment.
Non, non, mais c'est encore une fois, ça parle de vous. Et on pourrait se poser, Yves-Alexandre Telman, ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est pourquoi Élise va vers des hommes qui ne s'intéresseront pas à elle. Il y a quelque chose à comprendre peut-être là, non ?
Alors, certainement, on parlait de croyances. Ici, j'ai relevé quand même une phrase forte. On ne veut pas de moi. Et après, bien sûr, vous avez rectifié en disant les hommes qui m'intéressent ne veulent pas de moi. Mais là, on est dans une généralisation. Hein. Si on la formule un tout petit peu autrement, les 5, 6, 7, 10, 15 personnes qui m'intéressaient par le passé n'ont pas souhaité une relation amoureuse avec moi. Ça ne surgénéralise pas plus qu'il ne faudrait. Ça laisse des portes ouvertes. C'est peut-être un premier niveau hein, de la prise de conscience. Et puis après, bien sûr, il y a ce qui se trame peut-être en dessous du seuil de la conscience qui fait que les choix sont ce qu'ils sont pour l'instant.
Entre le moment, Élise, quand vous aviez 25 ans, donc entre le moment où vous découvrez que ceux qui vous intéressent ne veulent pas de vous et le moment où vous vous mariez, il s'est passé combien de temps ?
Un an.
Je m'attendais à une courte période. Et donc ça veut bien dire que en un an, on peut très très bien ne pas rencontrer la bonne personne. Enfin, on sait très bien nous qui avons un peu plus d'expérience, Yves-Alexandre Telman et moi, on sait très bien qu'on tombe pas amoureux tous les 6 mois. Et c'est pas surprenant qu'en un an, vous n'ayez pas pu rencontrer quelqu'un qui vous plaisait et à qui vous plaisiez. Voyez. Une sorte de besoin rapide de se caser, si je puis dire, qui vous fait faire un mauvais choix.
Oui, tout à fait. Je vous rejoins complètement. Hein. C'était une erreur totale. Sauf que là, ça va faire 10 ans. L'été prochain, que je suis seule, que j'ai quitté mon ex-mari, pour être très exacte. Et je rejoue les mêmes situations. Donc, je dis pas que je m'en amuse, j'ai pris de la hauteur avec ça pour ne pas souffrir, parce que je ne veux plus me précipiter, je veux pas me précipiter. Mais bon, le temps passe, et puis je ne peux faire que le constat que j'ai évoqué avec vous, quoi.
Oui.
Voilà.
Oui.
C'est pour ça qu'il doit y avoir des choses très inconscientes, hein, comme disait Alexandre, forcément, il y a des choses, mais je n'arrive toujours pas à avancer sur ce terrain-là.
Bah, peut-être qu'il faut essayer de comprendre pourquoi vous êtes attiré par des hommes qui a priori ne sont pas pour vous. Est-ce que c'est parce que vous mettez la barre trop haut? Est-ce que c'est parce que il y a forcément ouais. quelque chose qui serait intéressant à essayer de comprendre.
Ouais, c'est sûr que j'y ai réfléchi parce que j'ai eu diverses situations quand même depuis 10 ans. Hein.
Ouais.
Et non, je sais pas. Il y a comme un caillou qui bloque en fait, parce que oui, quelles que soient les situations, je ne vois pas d'issue. C'est voilà. Encore une fois, j'en suis pas désespérée parce que justement, je veux rester bien avec moi-même, mais ça reste quand même un manque dans ma vie de ne pas partager un bout de chemin avec quelqu'un avec qui je serais bien. Voilà.
Qu'est-ce que vous pourriez lui dire, Yves-Alexandre ?
Je reste très surpris par la formulation de la phrase, et à mon avis là il y a quelque chose qui peut-être donner une piste hein, pour faire changer la suite. Vous dites hein, on ne veut pas de moi. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans mon métier ou dans mes amitiés, dans mes contacts, qui ne trouvaient pas le partenaire ou la partenaire qu'ils souhaitaient. Et le formulait comme ça, hein. Ah, j'arrive pas à trouver, ah, je reste seul. Mais si vous dites on ne veut pas de moi, ça va chercher plus loin. Ça veut dire que certainement vous avez dû faire des expériences qui vous ont amené à cette croyance, hein, on ne veut pas de vous. Et après, ben, le cerveau, il a quand même tendance à travailler avec ses croyances et les actualiser. On dit c'est comme un programme. Et donc, ça pourrait aussi amener après une confirmation hein, avec le fait d'être attiré par des personnes qui, justement, ne souhaitent pas aller dans cette direction-là. Comme ça valide la croyance. Parfois, autant avoir une croyance qui fait souffrir qu'être lié à l'incertitude qui est plus anxiogène.
D'accord. Ben je vous rejoins. Hein. C'est vrai que c'est assez ancien cette histoire-là, et je dirais même de mon enfance, hein, puisque j'ai été abandonnée par mon père. Mais en fait, voilà, sans remuer tout ce passé lourd, il y a quand même, il y aurait moyen d'y travailler, selon vous, Yves-Alexandre. Il y a moyen de travailler cette question d'abandon.
Cette croyance, oui.
Oui, cette croyance, oui.
Bien sûr.
Oui. D'accord. Allez-y, Yves-Alexandre, donnez la piste.
Alors, il y a différents cas thérapeutiques dans le cadre où on peut faire ce travail. Mais là, vous venez de dire quelque chose qui éclaire encore plus ce « on ne veut pas de moi hein, » si vous dites que vous avez été abandonné hein, par votre père. Vous voyez que l'avantage de ne pas être en relation amoureuse avec des personnes qui nous plaisent vraiment, qu'on n'est jamais abandonné.
Oui,
on est peut-être seul, mais on n'est jamais abandonné. Et peut-être que la blessure de l'abandon est pire que la blessure de la solitude. Et somme toute, ça vous amènerait quand même à une sorte d'équilibre pas épanouissant, mais qui vous évite une souffrance pire encore. Hein.
Oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé.
Eh bien voilà, à vous de tordre cette croyance et puis d'accepter de prendre le risque d'être abandonné. C'est un risque qu'il faut prendre quand on va en amour, hein, Élise. On n'a pas le choix.
Oui. Ben, merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci à vous.
Je vous souhaite une bonne émission.
Merci beaucoup, Élise. Merci beaucoup. On continue dans un instant avec Laurence qui nous a rejoint, Yves-Alexandre Talman. Mais pour l'instant, on fait une petite pause.
Sud Radio Monde.
101.9.
Sud Radio.
Go. That you are, I'm yours, even if time has passed. Take me away from this impetuous world. Do you think that this day of my mind? Come, come, my baby, come, we show you the world.
Heures, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous sommes en compagnie de Yves-Alexandre Talman. Son dernier livre, Qu'est-ce qu'on peut être con, c'est aux éditions Marbaga et c'est un peu le fil rouge de notre émission d'aujourd'hui parce que justement, c'est parfois à cause de ça qu'on prend des mauvaises décisions et c'est Laurence maintenant qui nous rejoint. Bonjour Laurence.
Bonjour Brigitte, bonjour Yves-Alexandre. Alors, je vais rebondir sur ce dont parlait la personne et sur les origines dans l'enfance de certains dysfonctionnements.
Oui.
Et je vais élargir aussi au lien entre que l'on peut nouer aussi bien amoureusement que affectivement, les liens d'amitié. Parce que moi, ça touche tous ces domaines-là. J'ai longtemps été quelqu'un qui, lorsqu'on lui donnait une pâquerette, elle avait l'impression d'être Madonna à qui on offrait des bouquets extrêmement luxueux parce que image de moi-même dégradée, parce que relation aux autres compliquée. Et donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup étudié. J'ai beaucoup lu sur les croyances limitantes et les biais cognitifs. Donc moi, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que je peux être con, mais en me rendant compte que je le suis au moment où je le fais, et il n'en reste pas moins que je reproduis ces schémas dysfonctionnels. C'est-à-dire que je vais généralement m'attacher à des gens inaccessibles ou des gens pas disponibles, parce que petite, c'était déjà comme ça, personne n'était disponible pour moi, donc j'ai développé une très grande autonomie, j'ai l'air solide, j'ai l'air d'une winneuse, tout va bien. Donc personne ne pense que je peux avoir besoin d'aide ou qu'il faut me témoigner de l'affection tout le temps. Et donc voilà, je suis très perplexe parce que j'ai sans arrêt une discussion entre mes tripes et ma raison. J'analyse parfaitement, donc je me dis voilà, là tu fais ça parce que, mais je le fais quand même. Donc voilà, comment sortir de ces schémas dont on est conscient mais qu'on reproduit sans arrêt, j'en suis là à 57 ans. Donc peut-être allez-vous m'éclairer.
Oui, mais vous avez mis en place un système qui fonctionne bien, hein, qui vous protège bien. Pourquoi prendre des risques, Laurence? Qu'est-ce que vous diriez, Yves-Alexandre Talman?
La première chose que j'aimerais dire, alors on va de nouveau vers la généralité, on va prendre l'exemple précis pour en faire une règle générale. Ces schémas, hein, ces croyances limitantes, comme vous les avez appelées, en fait, sont le résultat d'expériences de vie. Hein, j'ai fait l'expérience avec mes proches, mes amis, mes partenaires amoureux, que souvent, ce n'est pas explicite, ce n'est pas conscient. Hein. Mais si une croyance se crée grâce à des expériences, il se trouve que le renversement de cette croyance, autrement dit son remplacement par une autre croyance, passe aussi par des expériences et non pas par une réflexion. C'est l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est qu'ils pensent que prendre conscience et être capable de voir le mécanisme à l'œuvre permet de s'en libérer. Mais ce qui permet vraiment de s'en libérer, c'est que si dans ma croyance, je ne suis pas suffisamment intéressant pour les autres, je dois faire l'expérience d'être suffisamment intéressant pour que ça renverse. Il ne me suffit pas qu'un thérapeute, un ami, quelqu'un me dise « Ah, mais tu es intéressant ». Il faut que je le vive vraiment, et vous avez dit tout à l'heure, avec les tripes, hein, pas forcément uniquement avec, avec la raison. Et en particulier, dans ce que vous avez dit, vous êtes forgé, hein, une personnalité, une apparence, hein, de femme forte, puisque vous avez dit hein, « C'est comme ça que les autres me perçoivent ». Donc peut-être que l'expérience à faire ici, c'est celle de la vulnérabilité.
Oui, ça peut se tenter, effectivement. Ça peut
oui,
se tenter.
Oui, oui, oui.
Je l'ai eu tenté, alors ça déstabilise beaucoup l'entourage. Hein. Quand on s'affiche, quand on essaye de faire coïncider son image et son moi profond, ça peut déstabiliser les autres. Donc il y a plein de choses au niveau du déséquilibre et retour à l'équilibre qui se joue. Mais effectivement, on peut le...
Oui. Mais vous pourriez, Laurence, vous pourriez commencer tout simplement par demander un petit peu d'aide ou un petit service à des proches. Et
ah,
vous
oui.
serez très surprise de comment ils vont courir à votre secours.
Oui, effectivement. Alors ça, c'est top. Mais vous n'imaginez pas à quel point c'est difficile, effectivement. Mais effectivement, ça part de là.
Pourtant, c'est pas très compliqué de demander un tout petit service pour démarrer. Je vous demande pas quelque chose d'essentiel, mais vous voyez, un petit service. Et vous allez vraiment, je suis sûre, vous allez être très surprise.
Oui,
parce
oui.
Parce que tout de suite, on va vous dire oui. Hein.
Oui, oui. Ben, je vais explorer la piste. Il me reste encore un petit demi-siècle, j'espère, pour explorer cette piste-là.
Oui, 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 mais c'est vrai que ce que vous racontez, c'est quelque chose qu'on entend souvent. On se débrouille pour arriver à se débrouiller seul, et puis on finit par souffrir parce qu'on a l'impression que. Mais c'est nous qui mettons en place tout ça, finalement, Yves-Alexandre Tellemann. Hein.
Ben oui, il se trouve que la force devient une faiblesse, hein, en l'occurrence ici, puisqu'elle met un obstacle à ce que l'on aimerait, c'est-à-dire être en relation, en bonne relation avec d'autres personnes. Et on retrouve ce que Élise disait tout à l'heure, à savoir on se protège de la souffrance. Et puis, en se protégeant ainsi, ben quelque part, on n'arrive pas à l'épanouissement que l'on aimerait. Et être en relation, c'est évidemment risquer de souffrir. Ça fait partie du jeu, hein, on va dire, même si parfois c'est pas tellement ludique. Mais tant qu'on n'a pas accepté cette éventualité-là, ben on est plutôt en périphérie, on reste en superficie, hein, on reste superficiel. Donc, oui. C'est une bonne stratégie d'y aller petit bout, petit pas par petit pas, un service par là, un service par ci, un petit coup de téléphone à une amie pour dire « Oh, j'ai pas la frite aujourd'hui », ce genre de choses.
Oui, mais ce que je trouve intéressant avec les deux premiers témoignages qu'on a eus, que ce soit Élise ou vous, Laurence, hein, on voit bien que finalement, c'est nous-mêmes qui mettons en place une sorte d'image qu'on envoie aux autres. Et puis après, on se plaint presque que les autres ne voient pas qui on est. Mais finalement, c'est nous qui mettons en place cette image.
Bien sûr, hein,
oui.
et notre... Pardon, allez-y Laurence.
Oui, non, j'allais vous dire oui, absolument. Et ce qu'il y a de terrible, c'est d'en être consciente. Et effectivement, ce qui est intéressant dans la proposition, c'est de passer par du comportement, par une modification de comportement. Même si on est conscient, même si on analyse, ça ne suffit pas, il faut inverser le fonctionnement, en fait. C'est ça, inverser la machine.
Eh bien, allez-y Laurence, puis vous nous raconterez hein, si ça. Mais moi, je suis sûr que ça fonctionnera. Il y a aucune raison que ça fonctionne pas, parce que quand on, enfin, moi j'ai même remarqué, Yves-Alexandre Tellemann, que les gens très souvent préfèrent apporter de l'aide qu'en demander.
Oui, il y a encore ces reliquats d'éducation que demander, ce serait s'abaisser. Hein, et donc, on a des personnes qui préfèrent rester dans leur situation plutôt que de demander. Mais par contre, offrir de l'aide, hein, offrir de l'écoute, ça, c'est plutôt vertueux. Donc, on le fait. On risque qu'une seule chose quand on demande un coup de main, c'est qu'on nous dise non, non, pas cette fois, non, je peux pas, non, je sais pas, non, je veux pas. Mais la plupart du temps, ça vaut la peine parce qu'on obtient quand même une partie de ce qu'on souhaitait.
Exactement. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous, en tout cas. On continue avec Fred, qui va répondre à 3 questions intimes. Vous pourrez ensuite en poser une à Yves-Alexandre Talman. Bonjour, Fred.
Bonjour, Brigitte. Bonjour, Yves-Alexandre.
Bonjour.
Mais merci d'être avec nous. Alors justement, première question, est-ce que vous préférez demander de l'aide ou en donner ?
On m'en demande beaucoup et j'aime beaucoup donner, apporter mon aide.
Et ben voilà, vous confirmez ce qu'on vient de dire.
Exactement.
Et oui. Bah, de temps en temps, pensez à en demander. Ça fait plaisir, vous savez, de rendre service à quelqu'un.
Il faut c'est pas exactement hésiter. Ce qu'on m'a dit la semaine dernière. Ouais.
C'est vrai ? Ah bah, voyez.
Ouais, hein. On m'a dit ça, on m'a dit bah, pourquoi tu ne demandes pas ? Je dis bah, ouais, j'ose pas. Bah, vas-y, tu verras, ça te fera plaisir.
Et oui. Et pourquoi vous n'osez pas ? Hein ?
Bah, parce qu'on n'a pas envie de déranger. On n'a pas envie de mettre en difficulté une personne qu'on apprécie. Donc.
Il faut sortir de cette croyance et il faut se dire aller demander de l'aide, c'est faire plaisir à l'autre et c'est lui permettre de nous faire du bien et donc de lui renforcer son estime de lui-même, n'est-ce pas, Yves-Alexandre Talman?
Oui, j'ajouterais même que ça peut être une question de respect, parce que si je me censure de demander de l'aide en pensant que ça dérange l'autre, alors que je lui ai pas demandé si ça le dérangeait ou pas. Vous voyez, le respect envers l'autre, c'est lui faire suffisamment confiance pour qu'il me dise oui si c'est OK pour lui et non si c'est pas OK, plutôt que d'anticiper des réponses et puis me censurer.
C'est vrai.
Deuxième question, Fred. Est-ce que depuis MeToo et les questions de consentement, vous avez cessé de draguer ?
Je fais plus attention maintenant, oui.
Ouais, vous faites plus attention ?
Oui. Ça m'est arrivé même dans un bar où il y avait deux femmes qui commençaient à me draguer et je me suis dit oula, non, il y a un problème, c'est pas normal. Et du coup je leur ai dit non, je suis à table avec des amis, je vous dérange pas, je reste pas.
Oui, mais alors on va pas s'en sortir, Fred. Si les hommes n'osent plus draguer, si quand les femmes draguent vous les repoussez, comment on va faire?
Je sais pas.
Yves-Alexandre, comment on va faire?
Je dois dire que sur le coup, je fais pas un excès d'optimisme, je suis même pas optimiste parce qu'il faut réinventer tous ces codes et effectivement, on sait pas trop comment faire pour bien faire et surtout pour pas risquer hein, d'avoir des conséquences déplaisantes à nos actions.
N'est-ce pas? Bon, enfin, c'est pas grave. Ici, sur Sud Radio, on continuera à parler vrai. Troisième question, quelle note vous donneriez à votre libido aujourd'hui?
Allez, un 7 sur 10.
Oh, bah c'est pas mal, hein.
Ouais.
Et non, avec le printemps mal, qui arrive, je pense que ouais. Vous allez arriver à 9 sur 10 bientôt, hein. Il me semble. Bon. Eh bien, vous pouvez poser une question à Yves-Alexandre, il vous écoute.
Alors, Yves-Alexandre, est-ce que vous avez eu des difficultés dans votre vie personnelle et comment vous avez résolu ces problèmes-là ?
Ok, la question pourrait se formuler avec combien ou à quelle hauteur de difficultés, parce que si je n'avais pas eu de difficultés dans ma vie personnelle, je serais, je pense, une exception très, très...
C'est vrai.
Notoire, hein. Donc, comme tout le monde, j'ai eu mon lot de difficultés. Maintenant, c'est toujours difficile de quantifier, de comparer les souffrances hein, par rapport à ces difficultés. Mais voilà, j'ai subi des échecs, j'ai eu des relations amoureuses qui se sont terminées, auxquelles j'ai mis un terme, ou que j'ai subi la décision d'autres personnes. Par rapport à la deuxième partie, comment faire avec ceci? Alors, ça m'est arrivé, bien évidemment, c'est aussi mon métier, mais d'aller trouver un spécialiste, un psychothérapeute, à plusieurs reprises, pour recevoir de l'aide, hein, justement, hein, cette humilité de demander de l'aide. C'est pas parce qu'on connaît des choses qu'on peut les appliquer à soi-même. Donc, ne pas hésiter à demander de l'aide professionnelle quand ça nous submerge, hein, quand on est trop dans la souffrance, on va dire, dans la difficulté pour voir le bout du tunnel. Et puis autrement, je crois que... mais ça prend un moment, hein, je l'aurais pas dit comme ça il y a une dizaine d'années, mais j'y viens gentiment. La bienveillance envers soi-même. Ok, on prend des décisions qui sont pas forcément bonnes, on fait des erreurs, on est dans des situations où c'est difficile. Puis parfois, on se fustige encore soi-même, on se critique, on se blâme, on se parle durement. Ah, mais quel imbécile, pourquoi t'as fait ça? Ah, mais c'est pas possible. Ah, mais c'est de ma faute. Alors que d'avoir un regard avec un petit peu plus de distance et de bienveillance, en disant, ben voilà, ça arrive comme à tout le monde, hein, qu'une relation amoureuse s'arrête. Ça arrive comme ça arrive à tout le monde, qu'une amitié prenne une tournure qui n'était pas celle souhaitée. Ça arrive comme ça arrive à tout le monde, qu'un projet professionnel ne puisse pas aboutir. Et plutôt qu'après de se dire à soi-même ben, qu'on est une mauvaise personne, mauvaise entre guillemets, de se dire qu'on apprend, hein, on apprend des difficultés, des échecs pour rebondir puis pour continuer notre chemin.
Eh oui.
Je dis souvent, on est notre pire ennemi.
Oh, peut-être pas, Fred. Ça, c'est déjà être négatif vis-à-vis de soi-même, cette réponse.
On se critique toujours beaucoup, alors qu'en fait, au final, nos amis, nos proches, nous estiment souvent beaucoup plus que nous, parfois, personnellement. Moi, des fois, j'ai tendance à me critiquer beaucoup, et j'ai mes amis qui disent, mais non, pourquoi tu te critiques à ce moment-là? T'as pas autant de défauts que tu le dis. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, on est notre meilleur ennemi, et parfois, c'est bien de prendre du recul par rapport à ça, de se dire, bon, ok, je me suis dit ça, mais mes amis autour de moi m'estiment mieux que moi.
Peut-être qu'il faut avoir plus d'humour quand on se critique, sans doute,
exactement.
Fred. Je crois que c'est ça qui nous sauve. Tant qu'on sait se moquer de soi-même, ça va, hein, je crois.
C'est vrai.
Merci en tout cas de cet échange, Fred. Merci
Mais
beaucoup.
Je vous en prie.
Et puis laissez-vous draguer quand on vous drague quand même. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio Médoc.
103.2.
Sud Radio.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I'm losing control when you're not next to me? Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is, I want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problem is, when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees, got me down. I'm falling apart right in front of you.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Prendre les bonnes décisions, est-ce que c'est la même chose que de faire les bons choix? En tout cas, on en parle avec Yves-Alexandre Talman qui est avec nous. Et je rappelle ce livre, « Qu'est-ce qu'on peut être con ?» C'est aux éditions Mardaga, où vous expliquez bien de quoi on parle aujourd'hui. Et je pense, Frédéric, que vous êtes en ce moment justement en train de réfléchir. Vous avez une décision qui est difficile à prendre.
Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Yves-Alexandre.
Racontez-nous.
Oui. Alors oui, là actuellement, j'ai un peu entendu votre émission et oui, c'est pas évident les choix. Comme vous dites, est-ce des choix ou est-ce des bonnes décisions? Enfin, c'est pas évident. Et pour ma part, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des mauvais choix. Et là, il est vrai que je me pose une question un petit peu parce que ma compagne doit partir assez loin de la métropole.
Oui.
Et ça fait 3 ans que je suis avec elle. Donc, j'ai mes enfants et mes petits-enfants qui vivent sur la région parisienne et j'ai dit que je pouvais pas la suivre. Parce que, voilà, je sais que ce sera très très dur de partir très éloigné de mes enfants et mes petits-enfants.
D'accord. Donc vous faites le choix, si je puis dire, plutôt de rester avec votre famille, hein, plutôt que de rejoindre votre compagne qui s'éloigne beaucoup de là où vous êtes.
Oui, à peu près 8000 kilomètres.
Mais si vous le faites le choix, ce que vous avez envie, c'est qu'on en parle ensemble pour savoir si vous faites le bon choix, c'est ça?
Oui, plus ou moins. Bon, j'ai fait déjà mon choix. Pour l'instant, après, c'est pas irréversible. On verra dans quelques temps. Je sais que j'ai un de mes enfants sur deux qui m'a dit, mais moi j'irai. Donc,
c'est la fougue de la jeunesse.
C'est ça. Il parce a 30 ans, donc.
Ouais. Non, mais parce que il y a bien sûr votre famille, ça, bon, admettons, mais il y a aussi le dépaysement, il y a aussi c'est pas uniquement, c'est pas tout blanc ou tout noir, en fait. C'est peut-être là où il faudrait peut-être que vous arriviez plus à réfléchir à tous les paramètres, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Yves-Alexandre Talman? Qu'est-ce que vous diriez à Frédéric?
On est typiquement dans le cas d'un choix où il n'y a pas une bonne décision et une mauvaise décision parce que de toute façon, on n'a pas assez de paramètres. C'est pas comme à l'école où habituellement il y a des bonnes réponses hein, aux questions qu'on nous pose. Ici, on a deux alternatives et les deux vont nous donner des avantages mais aussi des inconvénients. Donc une solution optimale dans un cas comme celui-ci, ça n'existe pas. Dans tous les cas, il y a des sacrifices à faire et il y a des opportunités à saisir. Donc après, c'est de voir où penche la balance, mais je crois que vous l'avez dit, Frédéric, la balance a penché d'un côté. Et puis, ne pas rester rivé à la décision si on se rend compte hein, qu'avec le temps, ben, on regrette et puis qu'on aimerait prendre l'autre voie. Donc se laisser aussi un petit peu de latitude, de liberté, hein, peut-être de revenir sur son choix du moment où on l'a pris et qu'on se rend compte que ce n'est pas suffisamment satisfaisant.
Donc il faut dire à votre compagne, Frédéric, que pour l'instant, vous ne pouvez pas la rejoindre, mais ça laisse en suspens le fait que vous pourriez la rejoindre.
Bien sûr, on en a déjà discuté, hein, puisque l'échéance arrive dans 2 mois et demi. Donc, elle comprend, bon, elle a du mal à l'accepter, et elle me dit, mais de toute façon, je suis persuadée que tu viendras me rejoindre.
Ah, peut-être, les femmes ont parfois plus d'intuition que les hommes. Hein.
Oui, peut-être, oui, certainement. Mais après, il est vrai que pour ma part... j'ai 52 ans, donc depuis un certain nombre d'années, les décisions que j'ai prises n'ont pas été souvent les bonnes, et je me suis souvent planté, comme on dit.
Sur le plan amoureux ou en général?
Sur plusieurs plans, essentiellement au côté familial et amoureux, oui, il est vrai. Essentiellement. Au niveau au travail, je connais très bien mon travail, donc j'ai jamais eu trop de problèmes. Après, c'était juste un petit problème de caractère.
Mais est-ce que vous en avez peut-être tiré les leçons? Vous avez peut-être fait des erreurs et aujourd'hui vous avez peut-être rectifié vos erreurs. C'est pas parce que vous avez fait des erreurs que vous allez continuer à en faire non plus.
Oui, peut-être. J'ai essayé d'en tirer les leçons, mais après, on jugeait souvent par rapport à soi-même et on réfléchit à d'autres choses, mais des fois, si vous voulez, oui, c'est.
Non, mais Frédéric, je crois aujourd'hui, on sait que les couples se séparent plus facilement qu'avant. On sait que un couple, ça dure pas forcément plus de 7 ans, 10 ans, 15 ans. Moi, je crois qu'on peut savoir si on a fait une mauvaise, si on a fait une erreur quand on s'est mis avec quelqu'un, s'il n'y a pas eu suffisamment d'années de joie et de plaisir à être ensemble. Par exemple, si on a vécu, prenons 15 ans, si on a vécu 15 ans avec quelqu'un et qu'il y a eu 3 ans de bien et 12 ans de pas bien, bon, on peut considérer que ça a peut-être été une erreur de choisir cette personne. Mais si sur les 15 ans, il y a eu 12 ans de bien, c'est pas une erreur. Enfin, je sais pas, Alexandre Telman, vous trouvez pas qu'on a tendance aujourd'hui, sous prétexte que la relation se termine, systématiquement à considérer que ça a été une erreur? C'est pas forcément une erreur. Surtout que parfois, on a appris beaucoup.
Oui, on a de nouveau un de ces biais cognitifs qui est à l'œuvre ici. Qu'elle lie à notre mémoire. Notre mémoire n'est pas bonne pour évaluer les durées. Elle travaille plutôt avec des anecdotes. C'est un ensemble de photographies plutôt qu'un film, on va dire comme ça. Donc, si on a la fin qui est malheureuse, on aura tendance à projeter ça sur l'ensemble même de la relation et puis de dire que la relation était mauvaise et donc que c'était une erreur. Et on aurait tout à fait avantage à séquentialiser, c'est-à-dire à considérer peut-être année après année ou période après période, de façon à pouvoir dire, on a eu 3 ans de bonheur, 3 ans de galère, 3 ans de ceci. Et donc comme ça, de fractionner le souvenir en différents plus petits souvenirs, donc, qui fait qu'on ne va pas être aussi catégorique que de dire à la fin, c'était une erreur ou bien ce n'était pas une erreur.
Donc peut-être soyez plus indulgents avec vous-même. On a entendu Fred tout à l'heure qui disait qu'on se critique trop. Peut-être que vous aussi vous critiquez un peu trop.
Ah peut-être. Maintenant l'erreur que sur le premier couple que j'ai eu, parce que là la deuxième personne c'est c'est la deuxième relation qui dure longtemps. Parce que la première, j'ai été une trentaine d'années avec et j'ai pris un commerce pendant un peu plus de 15 ans. On a été en commerce ensemble, donc vivre ensemble H24, c'est là où je situe cette erreur.
Oui.
Après, sur le reste, m'être mis avec cette personne, avoir des enfants, ça pour moi, ça n'a pas été une erreur. On a vécu de bonnes années aussi quand même. Voilà.
Donc finalement,
j'ai essayé de faire le principe que Yves-Alexandre était en train d'expliquer sur le cheminement de la réflexion.
Bon, donc il n'y a pas tant d'erreurs que ça, Frédéric. Soyez confiant et faites-vous confiance. Et puis, 8000 km, aujourd'hui, tant pis pour l'empreinte carbone. Faudra bien arriver à vous retrouver. Merci Frédéric, en tout cas. On va faire une petite pause. On se retrouve après les infos. Vous pouvez vous aussi nous appeler si vous n'êtes pas sûr de votre décision. Petite devinette à l'approche du printemps. Pourquoi les hommes auraient intérêt à emmener leurs femmes en club naturiste? La réponse après les infos. Yves-Alexandre Talman.
Sud Radio Cagnes-sur-Mer.
97.9.
Sud Radio.
Tant qu'on joue, peu importe de gagner. La vie, c'est additionner les années, et tant pis. Y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en pleine nuit. Je t'aime, autant le dire comme le monde n'attend pas. Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi. Des couleurs, il en faudra. L'espace est la tempête, on est plus. Au bout, peu importe les avis, j'encaisse. J'ai additionné les échecs, et tant pis. Si je perds sur la route de mes rêves, des amitiés qui durent et je croyais pour la vie. Si tu l'aimes, autant lui dire et le reste attendra. Je croyais que l'avenir ne se finissait pas. Je vais courir et ça ira. L'espace est là.
Ne bougez pas, dans un instant, retour de Brigitte Lahaye Sud Radio.